Mais vous savez que l'astronomie est la première et la plus importante des sciences. Et que sans elle, nous vivrions à l'aveugle, dans l'ignorance des merveilles de l'univers.
Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Une équipe internationale d'astrophysiciens vient de réaliser, pour la première fois, une mesure détaillée de la distribution des abondances de plusieurs éléments lourds dans l'environnement immédiat du trou noir supermassif de la galaxie du Compas. Cette analyse permet de contraindre la fraction relative des différents types de supernovas ayant enrichi chimiquement le milieu proche du trou noir. Les résultats de cette étude ont été publiés dans Nature Astronomy. La distribution des abondances élémentaires constitue un indicateur fondamental pour retracer l'histoire de la production et de l'injection des métaux dans les systèmes astrophysiques. Elle conserve la mémoire des contributions passées des supernovas, principalement réparties entre les supernovas thermonucléaires, donc de type 1A, et les supernovas à effondrement de cœur, de type 2, 1B et 1C. Les éléments lourds synthétisés lors de ces explosions stellaires sont progressivement dispersés dans le milieu interstellaire et intergalactique, polluant le gaz primordial issu du Big Bang, initialement dominé par l'hydrogène et l'hélium. Les observations en rayon X du milieu intra-amas chaud dans les amas de galaxies montre que lorsqu'on intègre l'enrichissement sur l'ensemble du temps cosmique, les rapports d'abondance des métaux sont proches des valeurs solaires. Et ces distributions peuvent être reproduites par les modèles de nucléosynthèse actuels en supposant une contribution d'environ 20% de supernovas de type 1A et 80% de supernovas à effondrement de cœur. En revanche, sonder directement la composition chimique au cœur même des galaxies, région clé pour comprendre leur histoire évolutive et la croissance des trous noirs supermassifs, c'est longtemps resté un défi observationnel majeur. Dans les domaines ultraviolets, optiques et proches infrarouges, les abondances métalliques des galaxies abritant des noyaux actifs sont généralement inférées à partir des rapports d'intensité des raies d'émission nébulaires au moyen de modèles de photoionisation. Ces modèles décrivent l'interaction du rayonnement ultraviolet et optique avec le gaz environnant, mais leurs résultats dépendent fortement des hypothèses qui sont adoptées concernant la distribution de densité du gaz et aussi la forme du continuum ionisant ou encore le degré de déplétion des éléments sur les grains de poussière. Ces dépendances introduisent des incertitudes systématiques importantes. À l'inverse, l'interaction des rayons X avec la matière est physiquement plus simple et elle permet d'étudier de manière quasi directe l'ensemble des composantes du milieu, qu'il s'agisse du gaz ou de la poussière. Lorsqu'un photon X de haute énergie est absorbé par un atome via le processus photoélectrique, une raie de fluorescence est émise. L'intensité de cette raie est directement proportionnelle à l'abondance de l'élément correspondant dans le milieu irradié. Les diagnostics qui sont fondés sur les raies de fluorescence observées dans le spectre X réfléchi par la matière entourant un trou noir supermassif offre ainsi un moyen robuste d'estimer les abondances élémentaires dans les noyaux actifs de galaxies. L'enregistrement de ces raies, souvent faibles et étroitement espacées en énergie, requiert toutefois une résolution spectrale exceptionnelle. Et à ce jour, l'instrument de référence pour ce type d'étude, c'est le spectromètre à microcalorimètre Resolve qui est embarqué à bord du télescope spatial japonais CRISEM, récemment lancé. Grâce à sa résolution en énergie sans précédent, Resolve permet la détection et la mesure précise de raies de fluorescence d'éléments qui étaient jusqu'alors inaccessibles. Dans ce contexte, les astrophysiciens de la collaboration internationale CRISEM ont ciblé la galaxie du Compas, une galaxie spirale proche qui est distante de 4,2 mégaparsecs et qui héberge le noyau de Seyfert 2 le plus proche connu. Des observations X antérieures avaient montré que son noyau actif est fortement obscurci par une importante quantité de matière, ce qui en fait un laboratoire idéal pour l'étude du Thor obscurcissant et de son spectre de réflexion en rayon X. La galaxie du Compas a été observée avec CRISEM du 8 au 12 février 2024 pour un temps d'exposition total de 309 kilosecondes. Ces observations ont été complétées par des campagnes quasi simultanées avec les télescopes NuSTAR et XMM Newton afin d'étendre la couverture spectrale vers les hautes énergies, toujours en rayon X hein, bien sûr, et d'améliorer aussi la résolution spatiale en dessous de 10 keV. Le spectre global obtenu avec CRISEM couvre une région d'environ 3 minutes par 3 minutes d'arc, centrée sur le noyau galactique, et révèle de nombreuses raies d'émission associées à divers éléments, notamment l'argon, le calcium, le chrome, le manganèse, le fer et le nickel. Alors l'analyse du profil de la raie de fluorescence K-alpha du fer, élargie et modifiée par la diffusion Compton, indique que le matériau émetteur est froid, dense et fortement enrichi en métaux. Sa localisation à une distance supérieure à 0,024 parsec du trou noir supermassif est compatible avec la région du Thor poussiéreux. La comparaison des intensités des raies de fluorescence des différents éléments relativement à celle du fer met en évidence des rapports argon sur fer et calcium sur fer qui sont inférieurs aux valeurs solaires, tandis que le rapport nickel sur fer apparaît au contraire surabondant. À partir de cette distribution d'abondance, les chercheurs ont pu contraindre la combinaison optimale de supernova produire des montants distincts. Il conclut à une contribution dominante à 92% supernova à effondrement de cœur qui sont issues de masses inférieures à 20 masses solaires, contre environ 8% de supernova de type 1A. Ces résultats ont des implications majeures pour notre compréhension de la coévolution des galaxies et de leurs trous noirs supermassifs, ainsi que pour la physique des supernovas à effondrement de cœur. La composition chimique mesurée suggère en effet que le trou noir supermassif de la galaxie du Compas accrète un gaz récemment enrichi par des supernovas de type 2, plutôt que du gaz ancien dominé par les produits des supernovas de type 1A. Ce constat reste compatible avec les scénarios de formation galactique dits de l'intérieur vers l'extérieur, à condition toutefois que le gaz de la région du Thor, donc à moins de 20 parsecs du trou noir, soit continuellement réalimenté par le disque galactique externe, remplaçant ainsi le gaz ancien. Par ailleurs, la coexistence d'une activité de formation stellaire nucléaire, donc dans le noyau de la galaxie, et d'un noyau actif est cohérente avec les modèles dans lesquels les supernovas contribuent à l'obscurcissement du moteur central. La forte métallicité des régions nucléaires souligne également le rôle potentiel de la rétroaction des noyaux actifs de galaxies comme mécanisme d'enrichissement chimique à l'échelle galactique, voire même intergalactique. La mise en évidence d'une limite supérieure de masse de l'ordre de 20 masses solaires pour les progénitrices des supernovas à effondrement de cœur dans la région centrale de la galaxie apporte en outre un éclairage crucial sur le devenir des étoiles massives. Et oui, certaines théories prédisent en effet que les étoiles de plusieurs dizaines de masses solaires peuvent s'effondrer directement en trous noirs ou produire des supernovas de très faible luminosité sans éjecter d'éléments lourds. Bien que quelques candidates à de tels effondrements directs aient été identifiées dans l'univers local, leur contribution globale demeure aujourd'hui débattue. Mais l'absence de signature chimique associée à des supernovas issues d'étoiles de plus de 20 masses solaires dans les spectres de Crissem renforce l'hypothèse d'effondrement direct ou d'explosion ratée dans les environnements riches en métaux. Sauf, bien sûr, si la formation d'étoiles très massives y est intrinsèquement inhibée. Alors, ce scénario pourrait également apporter une solution au problème des supergéantes rouges, à savoir l'absence observée de supernovas à effondrement de cœur issues d'étoiles supergéantes rouges de masse supérieure à environ 18 masses solaires dans l'univers local, malgré l'existence avérée de telles étoiles. Et puis, l'effondrement direct des étoiles massives dans les environnements métalliquement enrichis a des conséquences aussi importantes pour l'histoire globale de la nucléosynthèse cosmique. Dans l'univers primordial, caractérisé par une faible métallicité, des étoiles très massives pouvaient au contraire exploser en supernova et produire d'importantes quantités d'éléments alpha, des éléments lourds. Et ce contraste entre les différentes époques cosmiques pourrait expliquer pourquoi les rapports d'abondance intégrés qui sont observés aujourd'hui dans la plupart des amas de galaxies sont proches des valeurs solaires. L'article de la collaboration CRISEM est paru dans Nature Astronomy le 31 mars 2026 et il porte le titre, qui est également le titre de ce billet, une détermination précise des abondances chimiques à proximité d'un trou noir supermassif. Tout simplement. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut !